Vaïven, donc Noach sort de la Teva, tout est sorti avec lui, c'est-à-dire tous les animaux, tous les humains, etc., toute la famille. Et le pasuk dit, Vaïven Noach Mizbeach Lachem. Noach a construit un hôtel pour Hachem. Vaïven. Comme nitbonen, c'est-à-dire vaïven, vous avez la racine de bina. Yiven, c'est la Lashon Bina. De toute façon, la notion de construction, Binyan, ça a à voir avec Ben, qui veut dire le fils, et également avec la notion de Bina, qui veut dire comprendre, réfléchir, étendre. Bonsoir. Étendre donc les considérations qu'on connaît jusqu'à. De telle sorte qu'on puisse interpréter d'autres choses grâce aux éléments qu'on a. Bonsoir. Amar, alors on nous fait part donc de la réflexion. Il a dit Mipnema Tzivani Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a-t-il ordonné de la manière suivante? Riba Bateorim Yoter Minatmeim. Il m'a ordonné de faire entrer dans l'arche plus d'animaux purs que d'animaux impurs. Et là, c'est certainement Leakriv Mehen Korban. C'est certainement pour approcher, à partir des animaux purs, des Korbanot. Miyad, immédiatement, suite à cette réflexion, Vaikach Mikola Behema Teora. Il a pris de tous les animaux purs, etc., et il a approché ce korban. C'est un peu surprenant parce que le miyad ici est un peu surprenant. Parce que cette question, il a bien dû se la poser quand Hachem lui a donné l'ordre de faire entrer les animaux, et pas au moment de la sortie. Donc a priori, s'il est arrivé à cette conclusion, il a dû arriver à cette conclusion durant le voyage de l'arche. Durant le déluge. Donc le miyad, immédiatement, on a l'impression que c'est présenté comme si il a mis immédiatement en application la conclusion à laquelle il était arrivé. Alors, peut-être effectivement, peut-être que ce qu'on veut dire Vaikar Mikola Behema, c'est dans sa tête, il avait déjà fait le programme, et c'est donc quand il sort, il met en œuvre un programme qui effectivement a été concocté immédiatement après la réflexion, mais bon, qu'il n'a pas pu approcher jusqu'à maintenant, pas pu réaliser jusqu'à maintenant, puisqu'il était à l'intérieur de l'arche. Peut-être effectivement que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hachem lui a ordonné d'avoir les animaux impurs aussi. Parce qu'il pour assurer la pérennité de toutes les espèces. Hachem.
Ah, c'est-à-dire que le pur se
Non, ou peut-être on a besoin d'animaux un peu, on a besoin des ânes pour transport, on a besoin des chameaux, on a besoin de toutes sortes d'animaux. Les animaux impurs, c'est des animaux qui sont interdits à la consommation. Ça n'a rien à voir avec la pureté et l'impureté. Dans la Torah, hein, je vous l'ai dit, je crois déjà, dans la Torah, on utilise l'expression pur et impur pour les animaux consommables et non consommables. Pourquoi c'est de la pureté? C'est dit en termes de pureté et d'impureté, ça on verra, mais ça n'a rien à voir en fait, de facto, avec la pureté ou l'impureté. Et par conséquent, d'abord parce que il faut que vous sachiez que le vivant n'est jamais impur. Le seul vivant qui est impur, c'est l'homme. Mais les animaux vivants ne peuvent pas être impurs. Un animal vivant est toujours pur. Quand il meurt, il peut devenir impur. C'est une charogne, etc., est impur. Mais un animal vivant est toujours pur, du point de vue des lois de la pureté. Sauf l'homme, que je ne considère pas tout à fait comme un animal. Oui, parce qu'il y a une conscience, parce qu'il y a une notion d'impureté. C'est-à-dire qu'en fait, plus on est élevé, plus on peut se rendre impur. Le monde animal ne peut pas se rendre impur tant qu'il est vivant. Oui. Un sacrifice, c'est toujours avec un animal qu'on aurait pu nous-mêmes manger. Peut-être même elle a de la prise, elle a prise. Pas de prise jusqu'à un certain niveau, jusqu'au niveau de l'animal, il n'y a pas de prise, l'animal vivant, pas de prise. Ce n'est que le. Et par exemple, il y a une différence entre un goy et un juif. Un goy ne peut pas non plus devenir impur minatora. Mais un juif, il peut devenir impur minatora. Parce que cette notion d'impureté, il faut l'entendre comme. Par rapport à cette impureté, elle va de pair avec la pureté. C'est-à-dire, dans la même mesure que je peux m'élever jusqu'à un certain degré à la fois de kdusha et de pureté, de sainteté et de pureté, alors c'est toujours, ça va toujours par couple. D'accord? Si tu as plus quelque chose, tu dois aussi avoir la possibilité de moins de ce moins autant. Même chose. C'est plus 50, alors il y a aussi moins 50. Oui, c'est comme, par exemple, en termes de responsabilité, on comprend bien que il vaut mieux, dans une guerre, il vaut mieux arriver à faire tomber le général que faire tomber le simple troufion. Peut-être c'est une question de confiance. Je l'ai dit moi-même, mais après, c'est tout un problème de savoir qu'est-ce que c'est que la conscience et tout, mais disons, intuitivement, je dirais que c'est une question de conscience. Oui, les erreurs que fait quelqu'un qui a de grandes responsabilités, elles portent évidemment beaucoup plus à conséquence que l'erreur que peut faire celui qui n'a aucune responsabilité. Oui. Oui, c'est marqué, Hachem dit, c'est de la sorte, parce que je vous aime, parce que vous représentez quelque chose pour moi, alors je suis plus sévère à votre égard. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Midrabanan, il y a une impureté Midrabanan. Alors, il a approché ses animaux sur le Misbéar, sur l'autel. Alors, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, où était cet autel? Alors, il dit, Al Misbéar Hagadol chez Birochalaim, sur le grand autel à Yerushalayim, chez Shamikriv Adam Arishon. C'est là-bas que Adam Arishon a apporté son korban, comme c'est marqué dans le pasuk chez Nehemar, Vatitav Lashem Mishor Par Mikeren Mafris. Vayarach, c'est ça. Donc, on nous dit que ce que Noach a fait, c'est en quelque sorte la même chose, c'est sur le même autel que celui qu'a fabriqué peut-être aussi Adam Arishon, où on apprend qu'il a apporté un korban, parce que c'est ce verset-là, que le verset qui est cité ici dans Tehilim, que c'était plus agréable, vatitav, c'était meilleur pour Hachem, mishor par, qu'un taureau. Ici, shor ça veut dire taureau et par ça veut dire aussi taureau. Mais par, dans la halakha, il y a des règles pour savoir jusqu'à quel âge on l'appelle un par. Et donc c'est une façon de dire qu'il était jeune. Mikeren mafris, que plus c'est meilleur donc que Keren, qu'une corne, c'est-à-dire un taureau qui avait une corne. Et Mafris, c'est le siman, que le sabot fendu. Mafris par ça, hein. Mafris c'est seulement là, ça fait référence à la fente en quelque sorte, au sabot, la fente du sabot. Donc on parle ici des... Bonsoir. On parle ici donc de ce korban que Adam Arishon avait approché. Et on nous dit... Ah, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Il a apporté, on nous dit, il a apporté un korban. Il a apporté un korban parce qu'il a compris que c'était la fonction de ces animaux-là. Ces animaux-là étaient en plus grand nombre. Donc, pour quel usage est-ce qu'ils sont là en plus grand nombre? Et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, avant de sortir de l'arche, si le raisonnement s'est fait avant de sortir de l'arche, ils n'avaient même pas le droit de manger de la viande. Donc c'est même pas, on peut dire, on aurait pu imaginer, ben, il y en a plus, parce que c'est prévu que tu dois les manger. Donc pour assurer la pérennité de l'espèce et que tu aies à manger jusqu'à ce que ça se reproduise, ben, voilà, il en fallait plus. Mais c'est vrai Hachem va leur permettre de manger de la viande, mais lui, disons, s'il a fait surtout son raisonnement dans l'arche, à ce moment-là, c'était encore interdit de manger de la viande. Donc, c'était uniquement, il a pensé en termes de korbanot. Il a pensé en termes de korbanot, et du coup, on nous dit, bon, alors est-ce qu'il a bien pu approcher son korban? Il a approché un korban comme celui d'Adam. On a déjà remarqué plusieurs fois que, au fond, la famille de Noé, au sortir de l'arche, elle est un peu comme la famille d'Adam avant la faute. D'accord? Si, d'après Rashi, la famille d'Adam, c'était Adam, Chava, Caïn, Evel, et trois jumelles. Enfin, une jumelle avec chacun d'entre eux, et une deuxième avec l'un d'entre eux. Trois sœurs jumelles. Ça, c'était la famille nucléaire, en quelque sorte, initiale. Bon, c'est à peu près la même chose que Noah. Lui, sa femme, et les enfants et leur femme. Il y a donc deux générations, quoi. Là-bas aussi, il y avait deux générations. Et donc, Noah apparaît dans cette affaire-là, quand il sort de l'arche, il apparaît comme s'il était Adam. Il est dans la même situation qu'Adam. Tout dépend de lui, tout va commencer par lui. Il est le premier, à partir duquel toutes les choses vont s'organiser. Non, si Adam n'a pas inventé le sacrifice, mais Adam a, en tant que le sacrifice d'Adam, il est important parce que c'est vrai qu'a priori, c'est Caïn qui a inventé le sacrifice. Mais bon, Adam était plus important que Caïn, et donc Caïn qui a inventé le sacrifice, il ne l'a pas bien fait. Evel n'est plus là. Donc, c'est maintenant celui qui vient après, c'est Adam. Et donc, le nouvel Adam, si on peut se permettre de dire ça, de ce point de vue-là en tout cas, c'est, du point de vue du remplissage du monde, de la source du commencement, c'est Noé. Et donc il apporte lui aussi des korbanot en fait. Adam il a apporté un seul korban. Lui il apporte des korbanot. La grande différence, c'est bien évidemment que ici il apporte des korbanot parce qu'il comprend que c'est la fonction des animaux en question. Tandis que la démarche d'Adam, c'était d'approcher un corban, à la fois dans une dimension de kapara, qu'il a compris que lui avait besoin du corban. Tandis que Noah, il a l'air de dire, bon ben, c'est pas qu'il ressent l'envie d'apporter un corban. C'est un corban, le corban de Noah, c'est l'air d'être un corban intellectuel, quoi. Son origine est intellectuelle, ou même c'est simplement d'un raisonnement relativement élémentaire. À quoi ça peut bien servir? Réponse presque obligatoire, à des korbanot. Donc il apporte des korbanot parce que c'est leur fonction, mais on n'entend pas une démarche chez Noé d'une volonté d'approcher des korbanot pour s'approcher d'Hachem. Oui, avec, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on va en faire, mais qu'est-ce que je dois en faire? Pourquoi est-ce qu'Hachem m'a ordonné de prendre ces... matériaux-là. Je veux voir en termes de matériaux. Non. Dans les, justement, dans les animaux qui allaient servir à les corbanotes, il y en avait sept. C'est ça son raisonnement. Son raisonnement, c'est à quoi. Qu'est-ce qui se passe ici avec. Qu'est-ce qui se, pourquoi est-ce qu'il m'a ordonné ça? Ça ne peut être que pour ça. Son raisonnement, c'est. Au milieu de Bonnen, il arrive à la conclusion que bon, ça doit être. C'est pour ça. Hachem lui a ordonné de prendre sept couples. C'est pas lui qui a pris. Donc. Non! Il lui a donné de prendre sept couples d'animaux purs. Il n'a pas donné le même ordre concernant les animaux impurs. Là-bas, il n'y a pas sept couples. Il dit pourquoi il. Deux choses l'une, ou s'il s'agit simplement. Si sept, c'est le chiffre standard pour assurer la, je sais pas, la pérennité de l'espèce, alors ça devrait être valable pour les animaux impurs aussi. Donc si on peut se contenter de moins pour les animaux impurs, on pourrait faire la même chose pour les animaux purs. Donc, à quoi servent les autres animaux purs dont je n'ai pas besoin pour assurer la pérennité de l'espèce? Ça peut être que pour des corbanotes. Alors, la question qui vient, c'est quand même, bonsoir, la question qui vient, c'est quand même de se demander pourquoi Hachem lui demande d'apporter les corbanotes. Qu'Hachem agrée la démarche de quelqu'un qui veut apporter les corbanotes, on comprend bien. Mais quel est le sens d'ordonner à quelqu'un approche des corbanotes? D'autant que si le corban vient parce que on se sent éloigné. Parce que Corban, la racine de Corban, Koufreshbet, ça veut dire rapprocher. Ça veut dire proche. Et donc, si le Corban est une procédure de rapprochement, alors sa raison d'être, c'est le fait qu'on se sente ou qu'on nous dise qu'on est éloigné. Je me sens éloigné, donc je mets en marche une procédure qui me rapproche. Ou alors, on me dévoile. Hachem me dévoile, tu es éloigné, alors mets en marche une procédure de rapproche, d'approche, rapprochement. Mais un noir qui sort maintenant de la Teva, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il apporte un corban? C'est pourquoi ce corban là maintenant? Il vient pourquoi? Pour des fautes que Noé aurait faites dans l'arche? Ou il vient pas pour des fautes, il vient pour. Est-ce qu'il faut commencer la relation par se rapprocher? Quel est le sens de cette démarche? Dans la mesure où elle est faite comme une démarche initiale. C'est-à-dire, on commence le monde avec une telle démarche. Qu'est-ce que c'est que. En plus, c'est Hachem qui le lui prescrit. Il faut que tu commences comme ça. Enfin, Hachem lui a pas dit qu'il doit commencer comme ça. Et c'est pour ça. Son étymologie qui nous le dit. Donc, veut dire que quelqu'un peut très bien penser, j'ai pas fait de faute, mais je me sens pas proche. J'ai envie de me sentir plus proche. Non, c'est. Alors. Le, parce que. Non, c'est pas tuer l'animal, c'est offrir quelque chose. C'est offrir de la viande, en fait. Non, sur le. C'est brûlé. Hachem, il va pas.
Non, mais je veux dire, fumer.
Alors, ça va venir, effectivement. Alors, on va offrir quelque chose. Alors, on pourrait imaginer. Puisque c'est pas mangé, puisqu'il n'y a pas de kohanim ici qui vont manger, etc. Il n'y a pas de prêtres qui vont manger. Donc on va en discuter justement de ce problème-là. On va le brûler. Alors, qu'est-ce qu'on offre quand on brûle? Tu offres quelque chose à manger, on comprend, mais tu offres quelque chose. Alors il y a une notion de parfum. L'odeur de parfum, etc. Oui, ça c'est pas. Ça semble-t-il, ça n'a jamais fait problème. Celui qui a fait le premier corban qui a été agréé, c'était aussi un animal. Evel, c'est les prorotes qui l'amènent. Il a offert des animaux. Caïn a offert du végétal, mais lui, Evel, il a offert du monde animal qui était son monde. Et ça a été agréé. Premier corban agréé est un corban de viande.
Et après Noah, en français, le sacrifice, c'est à double sens, quoi.
C'est sacrifice. Enlevez le mot sacrifice, parce qu'il ne correspond à rien chez nous. Dans corban, il n'y a pas de sacrifice. Premièrement, lui, quand il va l'approcher, il va manger de la viande. Alors, il n'y a pas cette dimension. Je n'ai pas besoin de me priver. Le don n'implique pas une privation. C'est une très bonne remarque. On voit ici que le premier don ici n'implique pas une privation. Si on dit que le raisonnement, il l'a fait dans l'arche. Parce que s'il l'a fait au sortir de l'arche, Hachem va leur permettre de manger de. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire, ben, juste avant, juste après, va leur permettre de manger de la viande. Oui, dès qu'ils sortent de l'arche, ils vont pouvoir manger de la viande. Et comme on a dit, je pense que le raisonnement, c'est un raisonnement qu'il a dû se faire dans l'arche et pas à la sortie. C'est la question de pourquoi est-ce qu'Hachem m'a dit de faire entrer plus de couples d'animaux purs et pas à la sortie. Donc.
C'est-à-dire quoi, Hachem?
Ça ne veut rien dire. Non, c'est une, évidemment une image. C'est la notion, c'est pas sensible, c'est un agrément. Hachem agréé. Ça s'appelle Réach Nichoach, odeur agréable. Hachem n'a pas agréé le corban de Caïn, par exemple. Et pas parce qu'on avait tué quelqu'un, on n'a tué personne là-bas.
Il ne suffit pas, en fait, de faire ce sacrifice selon la procédure, on va dire, à la loi, pour avoir son
corban agréé par la chef. Non. C'est une autre affaire, il y a un problème d'agrément. Mais le problème, c'est pour l'instant de savoir qu'est-ce que c'est que cette démarche. En plus, une démarche prescrite. Dans un monde où Hachem ne prescrit pas. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de le prescrire. La question, c'est, on dit que Noach, il a réfléchi à partir de la donnée suivante. Hachem m'a ordonné de faire entrer tous ces animaux purs. Pourquoi faire? Et il arrive à la conclusion, ça doit être pour en faire des korbanot. Et la question que je pose, c'est alors, qu'est-ce que c'est que ce korban qui est prescrit, quoi, qui est, parce que c'est bien le fruit de sa réflexion, mais le fruit de sa réflexion à partir de la prescription du nombre d'animaux à faire entrer purs, à faire entrer dans l'arche. Où là-bas?
Caïn et Abel, ça n'a pas été demandé par Hachem.
Justement.
C'est l'homme qui a pensé que c'est.
Oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est ça qui est surprenant ici. C'est que chez Noir, d'une certaine manière, c'est lui qui le pense, mais il le pense à partir du Tzivou. C'est une interprétation, en quelque sorte, de la volonté divine. Comme si Hachem lui avait envoyé un message. Ce que je peux comprendre par mon Sechel, c'est qu'Hachem m'a communiqué l'ordre.
Et le précédent, dont il avait connaissance, ne l'influence pas?
Non, c'est pas dit. Il a réfléchi.
C'est
non, c'est marqué le contraire. Non, il reçoit la prescription d'avoir plus d'animaux purs que d'impurs. Donc on voit très bien que ce n'est pas pour la pérennité de l'espèce.
Oui, mais là, la conséquence, c'est qu'il faut faire un corban, c'est...
Le problème, c'est à quoi ça sert?
Ça pourrait servir pour s'alimenter?
Non, à ce moment-là, le problème est comme ça. A priori, la question... La prochaine fois que vous allez en retard, je ne répéterai pas. Blineder. Oui, la question, ils ne se les seront pas posés en sortant de l'arche. La question, il s'est posée tout de suite. Quand Hachem lui donne l'ordre de plus de ceci, plus que de ça, il doit se poser la question tout de suite. Or, le texte porte qu'il a réfléchi au miyad. Il a fait. Pas miyad. Il a réfléchi, ça a duré un an. Et un an plus tard, il a fait le korban. Alors, Yosef Reim a répondu très justement que, vraisemblablement, il a réfléchi, il a tout de suite compris qu'il fallait faire un korban, et ça lui est compté. Voilà, c'est comme si tu l'avais déjà fait, puisque maintenant, tout ce qui t'empêche de le faire, c'est uniquement que tu es dans l'arche, tu dois faire un korban. Et donc il le fait tout de suite en sortant. Et le miyad, c'est ça. Mais donc ça vient de ce que Hachem, de cet ordre qu'il a reçu d'Hachem, de faire le distinguo entre les deux. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que à ce moment-là, on n'a pas le droit de manger de la viande dans l'arche. Jusque c'est seulement quand ils vont sortir un peu plus tard qu'Hachem va leur permettre de manger de la viande. Donc ce que vous avez dit, c'est pour manger, c'est impossible. Non, ça n'a rien à voir. Caïn était végétal.
Est-ce que c'était Ola ou Chal?
Le premier corban de Caïn, c'était végétal. C'était ni une Ola ni un Shlamim. Mais les corbanotes, c'était sûrement une Ola. Il n'y avait pas de corps, il y avait personne pour en manger. Qui est-ce qui va? Ils ne vont pas manger eux-mêmes. Il n'y avait pas même de place pour ça, quoi. Pas... Ils n'allaient pas mettre le feu. Non, il n'y avait pas. Ils ne pouvaient pas le faire dans l'arche.
Est-ce que le fait qu'il y ait des
Dieu.
Interdite avec ses bêtes, nous, ce qu'il fait Noah, c'est justement, il prend la bête et il fait quelque chose de kadosh. Il rompt comme ça, totalement avec, avec sa génération.
Oui, je... Je pourrais entendre ça. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi Hachem le lui a ordonné par ce biais-là. Pourquoi on ne l'a pas laissé libre de le faire ou de ne pas le faire? S'il comprend qu'il faut rompre, alors bon. Bon, mais le Midrash ne le présente pas comme ça. Le Midrash le présente comme une conséquence de l'ordre qu'il a reçu. Alors on apprend une grande chose. On apprend que ces ordres-là, il faut y réfléchir et les mettre en pratique. Ok, compris. Mais pourquoi il a donné cet ordre-là à Hachem ? Par ce biais-là. Il y a deux choses. Il y a l'ordre et le biais de l'ordre. Bon. Il aurait pu lui dire, je veux que tu fasses des corbanotes. Il ne lui dit pas ça. Mais l'id bonen, réfléchir, le sechel avec lequel on réfléchit, c'est aussi un don d'Hachem. Donc quand mon sechel arrive à une conclusion pareille, je suis obligé d'agir. Parce que sinon je suis incohérent avec moi-même. Alors, la Torah, on l'apprend grâce à ce qu'on est. Tu réfléchis, tu arrives à cette conclusion-là, ben voilà, il faut le faire maintenant. Et alors du coup, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que les données à partir desquelles tu as réfléchi, en fait, débouchaient là-dessus. Débouchait sur voilà ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que c'est un conseil qu'Hachem lui donne? En quelque sorte, il faut peut-être commencer si vous voulez, ce qui me dérange, c'est que si c'était un corban de reconnaissance à Hachem, mais alors, quoi, Noach, il est traité ici comme un enfant. C'est comme un enfant qui va acheter un cadeau à sa maman pour l'anniversaire de sa maman. Il va avec sa maman qui achète le cadeau, qu'il met dans la main de l'enfant et l'enfant le donne à sa maman. C'est quoi? C'est Hachem qui dit qu'il faut acheter un cadeau, et puis voilà le cadeau, voilà, je te donne les moyens de faire le cadeau, et puis après, bon voilà, donne-moi le cadeau. Alors c'est vrai que nous sommes dans un monde où de toute façon tout ce que nous donnons à Hachem, de toute manière, c'est lui qui nous l'a donné, donc bien sûr qu'il y a de cela. Mais on aurait pu imaginer quand même que si c'est de la reconnaissance, ben laisse-le exprimer sa reconnaissance. Et s'il n'en est pas capable, eh bien peut-être que c'est raté. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'être reconnaissant par lui-même. Si c'est de la reconnaissance qu'il faut exprimer, elle n'a de valeur que si elle vient de lui. Si c'est prescrit, c'est non. Et si ce n'est pas au titre de la reconnaissance, alors à quel titre?
Qui est que bah, c'est comme ça qu'il a compris l'ordre d'Hachem maintenant. C'est en effet un petit bout. Il y avait peut-être.
Moi, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, j'aurais dit, c'est pas loin de ce que tu dis finalement, que. Ce que Noach commence ici, c'est quelque chose comme Torah Shebaal Peh. C'est comme la Torah orale. On a un texte, et puis à nous de réfléchir sur ce texte avec des règles, et en déduire déduire de ce texte des règles de comportement à partir de cela. Donc la question n'est pas pourquoi, simplement voilà ce que Hachem lui a enseigné, c'est que dès lors que je te... Maintenant, il faudra que tu donnes du sens à ta manière. C'est toi qui dois donner du sens aux choses que je... aux choses qui sont dans le monde. Et à la limite, aux choses que je te dirai. C'est ton sens à toi. Il a réfléchi, et avec ce à quoi il est arrivé, il a agi. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il aurait pu déduire autre chose? Cette différence, c'est le commencement de la sagesse, de la réflexion. Tu vois une différence, tu dois bien te demander pourquoi cette différence. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Hachem voulait qu'il y ait plus d'animaux purs que d'animaux impurs dans le monde? C'est pas pour que j'en fasse quelque chose, c'est qu'Hachem voulait que ça se développe de cette manière-là. Mais du coup, lui, il a réfléchi en termes de qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est ça la nouveauté, si on peut parler comme ça. C'est que le monde qui est son monde, le monde dans lequel il est maintenant, il n'a pas à simplement à le constater, mais il doit en faire quelque chose. Avec cette petite différence quand même que le Midrash met l'accent sur le tzivouï. C'est-à-dire, il faut regarder le monde tel qu'il est comme la résultante d'un tzivouï d'Hachem. Alors que Hachem, il y a une parole d'Hachem, un ordre d'Hachem, qui est de, voilà, il faut qu'il y ait plus d'animaux purs. Et maintenant, cet ordre d'Hachem, à toi maintenant, à toi l'homme maintenant, à toi homme, d'en tirer des règles de comportement qui te concernent. Comme je vous dis, il aurait très bien pu simplement constater. Extraordinaire, Hachem veut qu'il y ait plus d'animaux purs dans le monde que d'impurs. Ou autre chose, je ne sais pas, peut-être vous avez une autre idée. Mais on pourrait dire, voilà, c'est tout. C'est Hachem me dévoile, je prends une position d'observateur scientifique, quoi, quelque part. Ben voilà, Hachem m'a... Je sais, je vois qu'Hachem a un souci d'un monde avec plus de pur que d'impur. Ah non? Mais à ça, il n'a pas... Les 7, ça ne donne pas de solution sur le corbanote non plus. Sans doute que 7, ça a à voir avec probablement la pureté, avec, c'est ce fameux chiffre 7, mais ce n'est pas dans les corbanotes. Ça n'a rien à voir avec le corban lui-même. Non, parce qu'il lui est pas donné. Il n'a pas d'obligation d'apporter un corban tous les jours.
À quel moment on a arrêté l'esprit pour distinguer le pur de l'animal?
Hachem lui a dit. Il lui a dit, tu prends un animal pur, un animal impur.
Donc tu connaissais les lois
de pur, oui.
De la chose de l'animal.
Oui.
Le fait qu'Hachem ait accepté le corban ne donne aucune information sur le surplus d'animaux purs était destiné à ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien ne pas avoir accepté alors qu'il était destiné à autre chose et...
Non, parce que probablement que s'il n'avait pas compris ce que Hachem voulait qu'il fasse, eh bien Hachem ne l'aurait pas accepté.
Ah non, mais soit peut-être qu'Hachem avait décidé d'autre chose pour ça, et puis de la manière...
Non, mais premièrement, il ne faut pas prendre non plus Hachem pour un être humain. Oui. Donc c'est pas qu'Hachem a décidé quelque chose comme ça. Hachem, s'il a mis ces choses-là, c'est pour que l'homme... décide. Point barre. C'est pas besoin de... pas qu'Hachem ait voulu. T'occupes pas de ce qu'Hachem veut. De toute manière, tu ne sauras jamais.
D'accord ? En faisant ce travail d'interprétation aussi sur le monde qu'il y a avait devant lui, il y a une certaine façon là, de se placer au-dessus du niveau animal, c'est-à-dire du simple Nefesh Raya. On dirait tout de suite, il a l'air de dire que la voie de la sortie, tu sais, c'est prendre une direction aussi pour dire spirituelle.
Oui. C'est-à-dire que il en déduit un comportement avec une, oui, je sais pas comment vous appelez ça, spirituel, oui.
Oui.
Tout à fait. Je pense que c'est ça. Je... Alors maintenant regardons le passou, enfin, ce que dit le Midrash. Rabbi Lazar, pardon. Le pasouk dit Vayara Hashem et Reach Anichoach. Hashem a respiré cette odeur agréable. Rabbi Lazar et Rabbi Yossi Verachanina. Ces deux maîtres discutent à propos de ce verset. Donc, Rabbi Lazar Omer. Écrivez-vous, bne noach shlamim. Rabbi Yossi bar Hanina amar, olot écrivez-vous.
Ceux qui sont là depuis assez longtemps savent qu'il y avait une machloquette sur ce que les bne noach ont approché comme korbanot.
Alors là, on a une machloquette. Est-ce que les bne noach, donc est-ce que l'humanité au début, ce qu'elle a apporté comme korbanot, est-ce que c'était des shlamim, des korbanot d'apaisement, mais donc des korbanot qui étaient essentiellement mangés par les hommes, une toute petite partie était brûlée sur le mesbéach, et le reste était mangé par les hommes, ou Rabbi Yossi bar Hanina Omer, olot, écrivez-vous. Non. Ils ont approché des korbanot qui étaient des olot, des holocaustes, c'est-à-dire qu'ils étaient totalement consumés. Les hommes n'en mangeaient pas. Alors, Ativ Rabbi Elazar, Rabbi Yossi bar Hanina. Rabbi Elazar a objecté à Rabbi Yossi bar Hanina. Rabbi Elazar qui disait que c'était des shlamim. Il lui a objecté, il lui a dit, mais Vehaktiv, il est écrit dans le Pasuk, Vehevel, et vi gamhu mi pchorot tsono ou mechel behen. C'est-à-dire, il a apporté des choses mi davar shechelbo karev. Il a apporté quelque chose, c'était un korban où le chelev, où la graisse, est également approchée. Alors, la Gemara dit Ma avid le Rabbi Yossi Min sham nehon. Il a dit, il a approché de ceux qui étaient, c'est marqué, mais chelbehen, c'est pas le chelev, c'est pas la graisse, mais c'est des plus gras, c'est-à-dire les plus beaux, les plus belles bêtes en fait. C'est cette idée que il a approché dans les troupeaux, il a choisi les animaux qui étaient les plus belles bêtes, les plus gras. Alors maintenant, ok, c'est la première objection est tombée. Deuxième objection. Ativ Rabbi Elazar, Rabbi Yossi bar Hanina, Ve'aktiv va'ishlach et na'are bnei Israël va'ya'alu olot va'yisbechu shlamim. Ça c'est le pasouk qu'on connaît. C'est marqué explicitement que Moshe Rabbeinu, juste avant Matan Torah, il a envoyé Naare Bnei Israël, littéralement ça veut dire les jeunes gens parmi les Bnei Israël, et ils ont approché à la fois des Olot et des Shlamim. Il y a Alou Olot, ils ont fait monter les holocaustes, Vaizbechou, ils ont fait la Shrita de Korbanot Shlamim. Alors, de nouveau, qu'est-ce que fait Rabbi Yossi? Mais avide les Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il fait Rabbi aussi avec ce verset-là? lui qui dit qu'on approchait que des Olot. Alors il dit Shlamin Shlemim Beoran Belo Efshet Venitoach. Pas Shlamim mais Shlemim. Pas des korbanot de Shalom si vous voulez, mais des korbanot entiers où on n'a pas procédé d'abord au dépeçage de l'animal. Dans leur peau, en fait. Bon. Deuxième objection qui est tombée. Ativra Belazar, le Rabbi Yossi, Bachanina, Veaktiv. Troisième objection. C'est marqué Vaikach Itro, Roten Moshe, Ola, Uzvachim. Donc, Yitro a approché un holocauste et des shlamim. Zvachim, c'est des shlamim. Mayavid le Rabbi Yossi Bachanina, il dit Keman de Amar le Achar Matan Torah ba Yitro. Il dit c'est vrai, c'était des shlamim, mais il y a une opinion qui dit que Yitro n'est venu chez Moshe qu'après Matan Torah. Donc, après Matan Torah, c'est sûr qu'on a approché des korban, c'est sûr qu'on a apporté des shlamim. Amar Avuna, Itpalgun Rabbi Yanaï Verabchia Rabba. Avuna dit, c'est en fait ça, quand Yitro est-il venu, c'est une machloquette entre Rabbi Yanaï et Verabchia Rabba. Rabbi Yanaï Amar Kodem Matan Torahba, et Verabchia Rabba Amar Lacha Matan Torahba. Yitro est arrivé avant ou après, selon deux opinions. Seulement Rav Hanina dit velo pligé en réalité. Mais ces deux opinions ne sont pas en contradiction. On avait l'impression que c'est que justement elles le sont. Parce que Mandama Kode Matan Toraba, Yitro. Alors écrivez-vous Bne Noach Shlamim, celui-là. Donc il n'y a pas de contradiction l'un sur l'autre, parce que les opinions en question là, elles sont bien en loquette, mais ça va deux à deux. C'est-à-dire cette opinion qui dit que Yitro est venu, il est venu avant Matan Torah. Et comme ce verset dit qu'ils ont apporté les shlamim, alors ça veut dire que avant, selon ils pensent qu'avant Matan Torah, les bnei Noach ont apporté les shlamim. Ceux qui disent que Yitro n'est venu qu'après Matan Torah, alors lui, il pense que les bnei Noach, jusqu'à Matan Torah, ils n'ont apporté que des holot. Veda mesayeh le Rabbi Yossi bar Chanina. Alors jusqu'à là, on s'est débrouillé, on a enlevé toutes les attaques contre Rabbi Yossi, mais maintenant j'apporte une preuve pour Rabbi Yossi. Ça vient à l'appui de la thèse de Rabbi Yossi. L'irtif, c'est marqué dans Shir HaShirim, c'est marqué Uri Tzafon Uvoi Teman. Le pasouk dans Shir HaShirim dit réveille-toi nord et viens sud. Uri Tzafon Ze Ha'ola She'aita Nishretet Betzafon. Uri Tzafon, réveille-toi. Ça porte sur la Ola. Le Korban Ola, la Shrita du Korban Ola, c'était au nord, dans le Beit HaMikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Uri, réveille-toi, Davar Shaya Yashen, Venitorer. Quelque chose qui ne se faisait pas, qui était en sommeil, et qui se réveille maintenant, c'est un appel, en quelque sorte, à la reconstruction du Beit HaMikdash, de telle sorte que les korbanot puissent venir. Boiteman, Elo Hashlamim, Shayu Nishratim Bedarom. Les korbanot Shlamim dans le Beit HaMikdash, on en faisait la Shrita au sud. Maou Boi, c'est Davar Shel Chidush. Boi, ça veut dire aussi, c'est vient quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait pas eu lieu encore. Et Rabbi Yoshua, Beshem Rab Levi, Amarkra, Messayale, les Rabbi Yossi Bar Hanina. Il y a encore un autre verset qui dit que, qui va dans le sens de Rabbi Yossi. Il dit Zot Torah Taola, Hi Haola. Ceci est la règle de la Ola. Hi Aola. Celle-là est la Ola. C'est-à-dire, il explique que ça veut dire, ce verset veut dire, c'est la Ola Shayu Bnei Noach Makrivim. Je te donne la règle de la Ola. Qui est la Ola, le Ola, c'est pas quelque chose de tout nouveau pour les Bnei Israël. C'est quelque chose que les Bnei Noach déjà approchaient. Vechi Atia Leshlamim. Et quand le texte en vient à dire la loi des Shlamim, alors il dit Zot Torah Zevach Shlamim, Asher Ikrivu Enktiv Kan. Il n'y a pas de référence au fait qu'on a déjà approché. Voilà la loi des Shlamim. Hein? Pas de référence à des Shlamim qu'on aurait approchés auparavant. Et là, Asher Ikrivu Mikan Ulaba. C'est-à-dire les korbanot shlamim que les Bnei Israël vont approcher depuis désormais. Quoi. Alors juste une petite pause ici. Qu'est-ce que, en fait, on était dans l'explication du verset qui disait que Hachem justement a respiré cette odeur qui était. Alors, probablement dans la traduction ici, on vous a traduit apaisante. Ach nichoach. Nichoach, ça peut se lire effectivement apaisant. Et ça ferait référence au shlamim en quelque sorte. À l'existence de shlamim. Dit en vérité, ça fait une marloquette pour savoir ce que les Bnei Noach ont approché. Tout le monde a l'air d'accord qu'ils ont approché des holotes, mais certains disent qu'ils ont approché des holotes et des shlamim, et l'autre pense qu'on a approché que des holotes. Alors finalement, le Midrash penche vers on a approché que des holotes. Les Bnei Noach n'ont approché que des holotes. Alors dans le Etz Yosef, les autres apportent une preuve, enfin ils disent qu'est-ce que ça fait ici, cette histoire. Eh bien ça vient à l'appui de la thèse qui dit que ce que Noach a approché, c'était uniquement des holotes. Noach a fait des korbanotes, c'est marqué dans le passouk, il a fait des korbanotes qui étaient des holotes à la Mitzbère. Puisqu'on a la fin du Midrash débouche sur la conclusion que les Bnei Noach, donc y compris Noach, n'ont jamais apporté autre chose que des holotes, ça vient bien à l'appui de l'interprétation qu'on a donnée qu'il a approché que des holotes. On aurait pu dire qu'il a approché des holotes, mais il en a aussi approché d'autres. Non, il n'a approché que des holotes. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire approcher des holotes par rapport à approcher des holotes et des shlamim? Il y a un commentaire en bas de la page à gauche, Shlamim Olot, qui dit cette machloket pour savoir s'ils ont approché les Olot ou les Shlamim. Aplukta azot matzinu gam ken bagmara. Cette discussion, on la trouve aussi dans la Gemara. Et normalement, il faudrait que j'explique la raison de la machloket. Pourquoi il se dit, quelle est la dispute? Parce qu'il y a une svara chez kol machloktam ruyatam me aktuvim levad. C'est peu vraisemblable que toute la machloket, elle est seulement dans la façon de lire les versets. Inyan toch yeshba. Il y a quelque chose à l'intérieur, il y a un contenu. Je peux donner un peu d'explication, mais c'est un drush, ce serait une explication très profonde. Je n'ai pas voulu entrer dans les longueurs, alors je ne l'ai pas mis ici. Voilà pourquoi vous ne l'aurez pas. Ça change quoi, pardon?
La recherche à comprendre le sens du corban de Noach, c'est ça?
La Gemara, elle veut apporter une preuve que Noach n'a apporté que des holot. Enfin, la Gemara, le Midrash va dans le sens de ce que vous avez, dans le français, vous l'avez, il offrit des holocaustes sur l'autel. 354, deuxième paragraphe.
Ça serait quoi la différence entre...
Un holocauste, c'est un corban dans lequel la viande est entièrement consumée, brûlée sur l'autel. Donc les hommes n'en mangent pas. Un shlamim, c'est un corban dans lequel les hommes mangent la viande du corban. On en brûle une partie, des entrailles, sur le Mizbeach, et le reste est mangé par les hommes. Donc c'est une façon de manger de la viande. Tandis que la Ola, c'est pas une façon de manger de la viande. Donc et maintenant, une Ola, c'est l'idée du... On donne tout à Hachem, c'est un don total. Et le shlamim, c'est une façon de ne manger que des choses qui viendraient de la haute table, en quelque sorte. Ça veut dire que ça a été mis sur l'autel, et puis maintenant ça nous est donné à nous. C'est-à-dire c'est une façon de manger de façon élevée, puisque quelque part, manger de la viande, ce serait faire le même travail que le misbeh. C'est une consommation qui est comme la consommation. Ça veut dire que dans les shlamim, l'homme est l'associé d'Hachem. L'homme consomme, et Hachem, et pour Hachem on consomme, si vous voulez. Donc les deux se font, les deux participent en quelque sorte au korban. Donc il y a une façon de... C'est une façon de dire que je peux manger à un niveau suffisamment élevé pour que ce soit considéré comme si c'était brûlé sur le misbéach. Donc c'est comme si je voulais dire je vais manger divinement, quelque part. Je vais manger comme si j'étais Hachem quand je mange. Comme l'autel, comme le misbeach. Là, alors, quand on leur a permis de manger de la viande, c'était seulement en termes de korbanot. Ça va, cholavat nafshecha, ça viendra bien plus tard. Tu mangeras de la viande tant que t'en veux, ça viendra plus tard. C'est Moshe Rabbeinu qui le permettra, enfin, c'est la Torah qui le permettra, mais c'est Moshe Rabbeinu qui le dira plus tard. Donc, pour l'instant, ils peuvent manger de la viande, désormais, mais justement, la question est, est-ce que tout de suite, Noach commence, si vous voulez, à manger de la viande à ce haut niveau-là? C'est leur façon de manger de la viande. Si on dit qu'ils ont apporté que des holotes, on n'a pas encore de preuve que les hommes mangent de la viande. On n'a encore rien vu, en quelque sorte, de ça. Ah oui, sans doute. Non, ils ne mangent pas les holotes. Ils mangent des chlamines. Ils ne mangent pas les holotes.
Mais il connaît la différence entre l'animal pur et l'animal impur. Donc l'animal supposé être caché ou pas. Donc si ça veut pas dire qu'il connaît aussi le terre avec la cachou.
Oui, il connaît. Oui. Il connaît puisqu'il a fait entrer dans l'arche les animaux qui seraient consommables, les animaux qui ne le seraient pas.
Oui, mais avec toutes les détails, c'est
vrai. Oui.
C'est vrai. On va dire que toutes ces règles, en fait, c'est liées au fait de manger.
Oui, alors ces règles-là sont liées à, tu veux dire, l'animal lui-même.
Oui.
On anticipe en quelque sorte la règle. Parce que la règle, ça sera que on approchera des corbanotes que des animaux qu'on pourrait manger. Il y a un dîme que tout ce que tu apportes, ça doit être mina moutar befifa, ce que tu aurais pu manger. Et toi, tu pouvais le manger, alors tu peux l'approcher. Tu ne peux pas approcher des choses que toi, tu ne peux pas manger. Là, du coup, on aurait cette idée qui est peut-être pas juste, mais disons la possibilité de dire ce que tu disais avant, que quelque part je m'enlève des choses de la bouche pour les donner. C'est-à-dire, je pourrais le manger, et au lieu de le manger, je le donne à Hachem. C'est un problème d'Emouna un peu analogue, qui ressemble un peu au niveau spirituel ici, à la mise en terre de la graine. Je prends une graine, au lieu de la manger, je vais faire un pari, quoi, que si je la mets en terre, elle va rapporter beaucoup plus que si je la mange. J'aurai pas une graine, mais j'aurai beaucoup de graines. Mais c'est un problème d'Emouna, il faut avoir confiance que, si t'as pas confiance, tu peux te dire, mais la seule graine que j'avais, je l'ai mise en terre, quoi. Je l'ai jetée, quasiment. Il faut avoir confiance que ça va pousser. Il faut une bracha pour que ça pousse. Ça pousse pas obligatoirement bien. Là aussi, je m'enlève de la nourriture de la bouche pour la donner à Hachem. A priori, quand je donne à Hachem, je suis censé donner à Hachem pour le faire plaisir, reconnaissance. A priori, je sais que c'est quelque part, je vais faire marcher un système, quoi, et Hachem me donne. De là ?
De l'épargne.
Ouais, c'est le principe de la mise en terre de la graine.
C'est-à-dire l'épargne financière, c'est ça, qui m'enlève de la bouche pour pouvoir.
Donc ça, c'est quand vous le donnez à n'importe qui. Mais.
Enfin,
je ne vais pas m'enlever.
C'est la même image.
Non, parce que là-bas.
Oui,
mais vous le gardez pour vous. Quand vous mettez en terre ou quand vous le donnez, vous le brûlez sur le misbéa, vous ne l'avez plus après. Vous me direz qu'on voit bien que le financier c'est la même chose, on l'a plus non plus, mais bon, c'est pas ce qu'il avait visé, ils n'ont pas visé ça, ça s'est fait tout seul. Non, mais les Bnei Noach, ils ont peu de règles de cachoute. Ils n'ont en fait qu'une seule règle de cachoute. les Bnei Noach eux-mêmes. La seule règle de cacheroute qu'ils ont,
c'est,
pardon,
c'est pas les mêmes animaux qui sont interdits alors.
Non, eux ils n'ont pas d'interdit sur les animaux, les goïms. Noach, on lui a dit, c'est les korbanot d'après la Torah, effectivement, les Bnei Noach, s'ils veulent apporter les korbanot, il faut qu'ils apportent des korbanot selon les règles des Bnei Israël. Et pas selon minamutar beficha ou minamutar befi Israël, quoi. Ce qui est permis dans la bouche d'un Israël. Même pour un Ben Noach. C'est une bonne remarque. Bon, les Juifs, mais les Bnei Noach, la seule règle de cacheroute qu'ils ont, c'est vers Minachai. C'est l'interdit de manger de la chair d'un animal qui a été prélevé sur un animal qui était encore vivant. Quant au reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, pourquoi pas. C'est très bon, les fourmis. J'ai entendu dire. Oui. Donc, c'est... Non, mais ça, c'est ce que vous avez déjà demandé. Il savait. Il sait. Ils savent. Il a étudié ces lois-là, en tout cas, il les connaît. Oui. Il sait quels sont les animaux. Il est pas. Pour lui, c'est pas pour manger, c'est pour faire apporter les korbanot. Oui, mais c'est la chokhma nécessaire pour apporter les korbanot. C'est-à-dire que c'est après coup que nous disons, il se trouve que ces règles-là correspondent également aux règles de kashrout. On aurait pu imaginer qu'il y ait d'autres règles quant aux animaux qu'on peut approcher que celles qui régissent la cacheroute, c'est-à-dire les animaux qu'on peut manger.
Par exemple, le razir qui a mis dans la Torah, il savait que c'était particulièrement impur.
Particulièrement impur. C'est des restes. C'est anthropologie ou particulièrement. Si, il est impur, ouais. Il n'y a pas de différence entre une côte de porc et une côte de cheval. Du point de vue de l'interdit, non? De toute façon, il y a une chose assez remarquable ici, c'est que sur le pasouk qui dit que Vayahalou olot vayisbechou shlamim, on a demandé mais qu'est-ce que Rabbi Yossi en fait? Alors lui, au lieu de shlamim, il a lu shlemim, entier, c'est-à-dire dans leur peau, sans qu'on ait dépecé l'animal et qu'on ait découpé la chair. Aujourd'hui, enfin, après, c'était pas comme ça. Il n'y avait jamais de korbanot qu'on mettait entièrement à brûler parce que là, pour une raison technique, c'est que la peau, elle appartient au kohanim. Or, si on avait mis la peau sur le misbéach, qu'ensuite, pour commencer à brûler, puis ensuite qu'on aurait enlevé la peau, on n'aurait pas pu la donner au Kohanim, parce que quelque chose qui était sur le misbéach, imalou lo yirdou. Si c'est monté sur le misbéach, ça ne peut plus redescendre. Et ça a une kdoucha, hein, du fait d'avoir été sur le misbéach, qui fait que on ne peut plus le reprendre. Et on touche ici une question très intéressante. Avraham Avinu, quand il a fait la Akeda, il a ligoté Yitzhak Avinu sur le misber. Il allait faire la shrita sur le misber. On ne fait pas la shrita sur le misber. Nous, on fait la shrita au Darom, au Tsafon. On fait la shrita en bas. Ensuite, on va dépecer l'animal, séparer la peau de la chair, de la viande. Et c'est la viande qu'on va mettre à griller. C'est la viande, c'est déjà de la viande comme vous mettez de la viande à griller, quoi. Et la peau est séparée. Donc la shrita, elle n'est jamais sur le misber. Alors comment se fait-il qu'Avraham Avinu voulait faire la shrita de Yitzhak sur le misber? C'est pas, la halakha n'est pas comme ça. D'accord? C'est une olaï pour faire la shrita au tsafon et pas sur le misber. Bon, j'ai vu une remarque très intéressante. Il dit justement que ce inyan que la peau va au Kohanim, ça fait partie des choses qu'on donne au Kohanim. Et c'est seulement quand la peau a une valeur en tant que telle. Ça veut dire quand il s'agit d'une peau qu'on peut tanner, etc. Mais la peau humaine, elle est très proche de la chair. Et donc, il n'y avait pas de problème de peau à séparer de la chair chez l'humain. Et donc toute la raison pour laquelle on ne fait pas la shrita sur le misbéar, c'est pour la raison que je vous ai dite, c'est que si on faisait la shrita, on ne pourrait plus ensuite enlever la peau et la donner au Kohen. Mais comme de toute manière, sur de la chair humaine, enfin sur un humain, s'il y avait un corban, il n'y a pas assez de différence entre la peau et la chair, alors alors Avraham Avinu, il faisait la shrita sur le misbéach. Ici, on voit que Rabbi Yossi répond, j'aurais appris que ils ont fait les korbanot shlemin beoran, ça veut dire. Il n'y avait pas de kohanim à ce moment-là, donc on n'aura pas donné la peau. On a fait la shrita de l'animal avec sa peau. Et on a tout brûlé quand il s'agissait de... Une fois que l'animal était mort, on brûle tout. Ça, c'était l'Arabie aussi. C'est ce que Avraham voulait faire. Avraham Avinu allait... Enfin, s'il avait effectivement été jusqu'au bout de ce qu'il croyait être à Akeda, son épreuve, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire.
Oui. Et pourquoi on
ne
peut pas redescendre la peau et par contre
on
peut redescendre la chair?
Qui redescend la chair?
Par exemple celle d'Isaac ou celle du...
Mais on ne la descend pas, on ne la descend pas. L'animal qui aurait... Il traque, on ne lui a pas fait la... Il ne l'a pas tué. Quel chlamim? Mais pas après, avant. Il ne monte pas sur le misber. On fait la shrita, chlamim, on fait la shrita au sud. D'accord? On doit dépecer l'animal. La peau, on va la donner au Kohen. Et on va prendre un peu des entrailles et un petit peu de peau qu'on va mettre sur le misbéach. Ça va rester et ça va brûler sur le misbéach. Et le reste de la chair, de la viande, va être mangé selon les korbanot, certaines fois par des Kohanim et d'autres fois par des Kohanim et par les propriétaires du korban. Alors pour revenir à ce que la Gemara, à ce que le Midrash disait, Vayarach Hashem et Reach Anichoach. Qu'est-ce que c'est que ce Reach? Ha Reach, c'est Recho shel Avraham Avinu. Ole mikivshan haesh. C'est le parfum d'Avraham Avinu qui remonte de la fournaise. Il n'a pas été brûlé, mais il a été parfumé en quelque sorte. C'est ça que, de même, Vayarach Reach shel Hananiah, Mishael et Azariah, Olin Mikivshan Haesh, aussi les trois qui ont été jetés dans le, dans la fournaise. Machal le ohavo shel melech, c'est comparable, une parabole ici, à une personne qui était aimée du roi, chez Kibdo, il l'a honoré, veshalach lo doron nae, diskos nae, il lui a donné, il lui a envoyé un très beau cadeau, un diskos nae, pardon, ouais, c'est un DVD, c'est pas un CD. Blu-ray, c'est pas. Alors, bon, ces disques-là, c'était un plateau. Complet. C'est un disque. Ve'amad beno velo kibdo. Et son fils ne l'a pas honoré. Par contre, le Amad ben beno ve kibdo, le petit-fils l'a honoré. Amarlo, mad me, ma, me doron didach, le doron de Sabach. Alors il lui a dit, le roi lui a dit, ton cadeau ressemble beaucoup au cadeau de ton grand-père. Non, le fils favori. C'est-à-dire, c'est pour mettre en évidence que entre Abraham et Michel, Hanan, Michel et Azaria, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de l'exil de Babel, personne n'a fait quelque chose comme ce qu'Abraham a fait, et eux l'ont fait. Donc il y a un trou en quelque sorte entre les deux. C'est l'idée que le père ne l'a pas fait, il n'a pas été amené à le faire, ou il ne l'a pas fait. Donc dans la génération intermédiaire, les générations entre les deux n'ont pas été amenées à le faire. Et le Midrash veut dire ici que on peut aussi dire il n'y a pas qu'Abraham qui a fait cela. Dans la génération bien après Abraham, d'autres l'ont fait aussi. L'idée, c'est que après, il y en a eu d'autres qui se sont sacrifiés, en fait. Le parfum, c'est le parfum qu'Hachem aime à respirer, si on veut. Il y a de la valeur, c'est le parfum de ceux qui sont prêts à tout donner pour Hachem. Vayarach Hachem, iriach reach doro shelshmad. Hachem a respiré ce parfum, en quelque sorte, si on parle comme ça, d'une génération de gens qui ont dû se convertir, en fait. ou qui ont été complètement, plus exactement, qui ont été complètement détruits. Si on dit que c'est les générations de Bar Kokhba, c'est-à-dire générations qui ont été complètement détruites par les Romains, les gens se sont aussi sacrifiés. Juste finir la lecture de ce tout petit morceau. Rav Shalom, au nom de Rav Menachama Bar Zeira, il faut comparer ça à un roi qui voulait se construire un palais dans la mer. Mais il ne savait pas comment ni où le construire. Il a trouvé Tzluchit Shel Papul Samon. Il a trouvé une assiette, mais c'est vraisemblablement, ça veut dire au fond de la mer. Il a trouvé une plateforme, quelque chose comme ça. Valach Vericha, il est allé. Il a essayé de sentir ce que ça sentait. Uvana ota alea, il a construit son palais là-dessus. Adao dirtiv ki hu al yamim misada ve'al naharo tichon nea be'eze zchut bizchut dor dor shav mevakshe panecha Yaakov sela. C'est-à-dire, il a construit ce palais sur cette plaque, sur cette plateforme en fait. Et pour savoir ce qu'elle était, il a essayé de sentir ce qu'était ce parfum, enfin ce papoul samon, je ne sais pas ce que c'est exactement. Si, de myrrhe. Oui. Enfin, Tzluchit, c'est effectivement un petit récipient. Mais c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, il a. Il a construit sur la mer, littéralement. Par le mérite de. Qui parle mérite de. Des générations qui. Des générations qui recherchent Hachem. On a étendu ça, si vous voulez. Certains veulent dire que il s'est laissé guider par cette fiole. Il a cherché d'où venait cette. D'où venait ce parfum, semble-t-il, en suivant ce parfum-là, il a trouvé l'endroit où le construire. Il l'a construit, comme on dit, il l'a construit sur les mers, fondé sur la mer et sur les fleuves. Il l'a fait tenir, et semble-t-il, Bezesrout, par quel mérite? Et le Srout, c'est d'Orshav. Vakshe Panecha Yaakov, ceux qui recherchent ton visage, ceux qui recherchent Hachem en fait. Le mérite, c'est celui qu'on obtient en recherchant Hachem. Donc on a étendu un peu, il y avait ceux qui sont prêts à se sacrifier. Je dis, mais ceux qui cherchent Hachem. Réellement, c'est déjà ça, le mérite, c'est la recherche en fait. Bon, on verra la prochaine fois, hein. Peut-être il faudrait commencer par ça. Regardez, est-ce que justement cette notion de mérite de ceux qui recherchent Hachem, est-ce que ça nous donne une information un peu sur le problème qu'on avait avant ? Parce qu'on s'était demandé ce que. Est-ce qu'Hachem a montré à Noach en lui indiquant, en lui donnant ses ordres pour que, en y réfléchissant, il trouve qu'il faut apporter un corban ? Est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire que ceux qui recherchent Hachem, c'est ceux qui sont. Ils sont guidés par quelque chose, c'est un peu comme dans cette démarche de. Il y a une fiole de parfum, et puis maintenant, c'est à toi à te laisser guider. Si tu. Pour que tu trouves. Comment. Tu recherches Hachem, c'est ça le mérite. C'est cette démarche. La démarche d'essayer de comprendre ce qu'Hachem voulait, etc. C'est ça la recherche d'Hachem. Pourquoi Hachem m'a donné cet ordre-là, c'est ça la recherche d'Hachem, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher Hachem ? C'est avec tout ce qu'il nous donne comme élément, pour élément de travail, en quelque sorte. C'est ça la recherche. Bon, on verra la prochaine fois. Je vais arrêter là. Pardon ?
C'est la terre, une génération
d'or ? Non, pourquoi une génération ?
D'or, chaque.
Oui, mais c'est chaque génération. Il y a un srout de génération de ceux qui le recherchent. Dans chaque génération, à la limite, on peut dire aussi, dans chaque génération, il y a un travail à faire qui consiste à rechercher Hachem, et ce travail, il est spécifique à chaque génération. Ce n'est pas le même dans chaque génération. Même si on a dit que les petits-fils, là, le Hanan, Mishael et Azaria, ça a la même valeur que la démarche d'Avraham Avinu, ce qu'on comprend assez bien. Bon. En vérité, toute démarche de recherche d'Hachem est valable. Quoi. Ça ne doit pas être obligatoirement sur ce modèle-là. Je crois que c'est l'extension de Midrash à partir de la deuxième partie du Midrash ici.